Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir jusqu'à 20h, dans le grand débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à ce nouvel indicateur de réparabilité qui est entré en vigueur le 1er janvier avec l'idée de mettre fin à l'obsolescence programmée et de réparer plus qu'on achète. Là, c'est aussi une loi anti-gaspillage. Alors on en parle ce soir avec nos invités, Emmanuel Lenagar, notamment professeur de marketing à l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Avant la pause, Emmanuel Lenagar, je promettais de donner des exemples très concrets d'obsolescence programmée, parce que c'est vrai que notre invité Samuel Sauvage, qui est président de Halt à l'obsolescence programmée, nous indiquait que ça existait encore, d'une certaine manière. Alors, vous allez me dire si tout ça est vrai. J'ai vu que, par exemple, les collants et les banylons seraient fabriqués pour se filer à partir de 6 utilisations. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, j'aurais bien du mal à vous répondre. Je ne suis pas dans le secret de la fabrication des collants. Ce que je voulais préciser quand même, c'est qu'il y a plusieurs façons de considérer l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que Samuel Sauvage soulignait que c'est l'idée de délibérément abréger la durée de vie d'un produit. Et donc, il y a, et hop, l'a bien montré, des cas d'obsolescence programmée, notamment oui. Les imprimantes, et des façons, en fait, finalement, d'abréger la durée de vie d'un produit, notamment avec des logiciels, par exemple, qui sont de plus en plus gourmands, ou des applications qui sont de plus en plus gourmandes et qui nécessitent des mises à jour et qui finalement font en sorte qu'un smartphone ou un ordinateur n'est plus performant. Hein, donc ça peut être un exemple concret.
Donc on nous force à le changer en vérité.
Exactement. Ouais. Donc c'est pas dans la construction forcément de l'objet qu'il y a la programmation d'une durée de vie, mais c'est les produits, l'écosystème autour qui finalement rend le produit obsolète.
Et puis après, il y a le coût, on l'évoquait tout à l'heure, hein, par exemple, une télévision qui date de 4 ans, ça coûte autour de 280 à 300 euros. Une carte à changer à l'intérieur du téléviseur en question, ça vaut environ 130 euros hors taxe. Donc, par conséquent, quand on fait la balance entre les deux, ben souvent on préfère en acheter une neuve que de changer la carte mémoire à l'intérieur.
D'autant qu'on aura le nouveau modèle.
D'autant qu'on aura, le nouveau modèle, Philippe Moiti. Donc c'est ça en fait aujourd'hui que pratiquent certaines marques. C'est pas vraiment de l'obsolescence programmée. On ne programme pas la fin d'un produit ou la fin de fonctionnement d'un produit,
ça
mais on fait en sorte de vouloir
et je crois qu'il faut vraiment distinguer le délit où effectivement c'est délibéré. On fait en sorte vraiment qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le produit tombe en panne et on soit obligé de le changer. Et c'est ça qui est l'objet de la loi de 2015.
Alors sur mes collants, vous êtes d'accord ou pas ?
C'est ce qu'on dit, effectivement, c'est ce que la technologie du nylon permettait de faire dans les années 50, hein, des collants indémaillables. Et qu'on s'est arrangé c'est la catastrophe, évidemment.
C'était une histoire très connue, Dupont de Nemours, les collants, ils s'en servaient pour tracter des voitures et ils ne filaient pas. Mais à ce moment-là, ces marques-là se rendent compte qu'elles allaient vendre moins de collants, effectivement. Et donc aujourd'hui, nous, on a fait un sondage auprès d'un millier ou peut-être même 2000 consommateurs, consommatrices surtout. Il apparaissait quoi ? Que entre 3 et 6 utilisations, finalement, pour la moitié de ces utilisateurs, eh bien, les collants filaient. Donc, réellement, on est sur du collant presque jetable.
Alors, question précise, Samuel Sauvage, est-ce que c'est lié au coût de fabrication et aussi au prix pour le consommateur ? C'est-à-dire que maintenant, il y a toute une gamme de produits plutôt low cost, que ce soit les téléviseurs, que ce soit les machines à laver, les collants. C'est le cas, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, dans des conditions parfois contestables, et qui valent moins cher pour la consommatrice ou le consommateur. Est-ce que cette baisse de qualité, elle est liée à ça ou elle est volontaire pour que les consommateurs achètent plus ?
Elle est liée aussi à la baisse du prix, et vous avez raison de le signaler. Et nous, consommateurs, quand on achète low cost, on est en partie complice de cette obsolescence programmée, puisqu'on sait très bien qu'à ce prix-là, on ne peut pas s'attendre à un collant très durable. En tout cas, on peut s'en douter après plusieurs tentatives. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que selon le nombre de deniers, selon les techniques de fabrication, eh bien, le collant allait être plus ou moins durable. Et en pratique, c'est les collants plutôt haut de gamme qui vont coûter 40-50 euros qui, finalement, sont ceux qui durent plusieurs années. Mais ce qu'on veut dire, nous, c'est quand même que, malgré tout, ça vaut souvent la peine. C'est-à-dire, quand on arrive à objectiver ces informations, on s'aperçoit que cet achat-là, qui vaut plus cher à un moment donné, s'il dure plusieurs années, il est beaucoup plus rentable. Oui. C'est donc un gain de pouvoir d'achat, c'est un gain environnemental. Oui. Et donc, il faut aller vers ce type de produit.
Oui, le consommateur est gagnant à la fin. Alors, c'est vrai pour les collants, c'est vrai, vous l'avez dit, pour les machines à laver, les imprimantes, on l'a évoqué. Les téléviseurs aussi sont prédestinés à fonctionner pendant 2000 heures en moyenne, hein, soit près de 9 ans. et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'était 10 à 15 ans il y a encore quelques années. Et puis les smartphones, on pense à la marque à la pomme, vous évoquiez tout à l'heure les ralentissements et autres dysfonctionnements rencontrés notamment par les smartphones de cette marque-là, dû à ces mises à jour du nouveau système d'exploitation. Alors moi, j'ai appris quelque chose en préparant cette émission, c'est l'origine de l'obsolescence programmée. Vous allez me dire si tout cela est vrai. Ça a été théorisé dans les années 30 suite au krach de 1929 pour relancer l'économie. Un homme d'affaires américain qui en a eu l'idée. Il faut que les consommateurs, se dit-il, changent leurs produits souvent pour faire tourner l'économie. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, Philippe Moiti?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que lui, il proposait même d'en faire un principe de politique économique, d'obliger les consommateurs à restituer les produits, à ne pas les garder trop longtemps pour faire tourner la machine. Donc ça, évidemment, il n'a pas été suivi dans cette direction, mais il met le doigt sur une réalité de laquelle on a du mal à se dépêtrer. C'est-à-dire qu'on est dans une économie qui, pour prospérer, est obligée de vendre toujours plus, quoi. On ne peut pas s'accommoder de la saturation des marchés. Donc l'obsolescence programmée délibérée, hein, c'est l'extrême qu'on a vu tout à l'heure, c'est un cas limite, mais tout le système fonctionne sur le mode du renouvellement rapide. Encore une fois, on ne va pas accuser les entreprises de la mode de faire de l'obsolescence programmée. On ne va pas les attaquer en justice sur la base de la loi de 2015.
Oui.
Mais la mode, c'est un principe qui nous incite à changer des produits qui pourraient encore être utiles pendant fort longtemps. Donc tout le système est fondé là-dessus. Et c'est ça qu'il va falloir changer. Ça veut dire que si on veut sortir de là et aller vers une économie qui soit moins consommatrice de ressources et qui préserve le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est le modèle économique qu'il va falloir mettre sur
la
sellette.
Ben justement, on en revient à notre débat de ce soir et à ma première question, Emmanuel Lenaguer. Cet indicateur de réparabilité, est-ce que ça va vraiment changer la façon de fabrication et dont vont produire demain les grandes marques nos objets du quotidien?
Oui, je pense que ça va changer les choses parce que ça va être un critère qui va être pris en compte, je pense, par les clients. Parce que ces pratiques d'obsolescence supposées, programmées, elles sont très, très, très mal vues par les clients. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un message à lancer aux entreprises, c'est que ce serait une stratégie extrêmement dangereuse d'avoir cette obsolescence programmée. Et en même temps, c'est
mais
vrai
est-ce que demain,
c'est...
quand je vais voir une machine à laver avec un petit carton jaune d'un côté, un petit carton vert de l'autre et un petit carton rouge de l'autre, avec une machine à laver donc qui sera en fonction de la couleur plus ou moins réparable, je vais choisir la verte.
Je pense oui, mais tout le monde. Je pense que ça va avoir un effet. C'est aussi l'effet qu'a eu par exemple le Nutri-Score, c'est que les entreprises vont s'aligner pour avoir. Par un effet de concurrence, vont s'aligner sur une réparabilité acceptable.
Oui.
Donc, ça va faire progresser un peu tout le monde. Et en même temps, ça deviendra probablement un critère moins discriminant dans le futur.
Donc, on va revenir à des standards d'il y a 20 ans où les télévisions, les lave-linges
plus,
dureront plus longtemps.
Et c'est un
Mais
effet
ça, c'est bien.
Très bien. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la durabilité, c'est pas aussi facile à vendre, entre guillemets, qu'on pourrait le penser.
Pourquoi ?
Parce que, prenons l'exemple d'un lave-vaisselle.
Oui.
Il y a une start-up un de mes anciens élèves, qui a lancé une start-up qui est en train de concevoir un lave-vaisselle qui dure 30 ans. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a un problème de coût. Et aussi, on peut se demander si tous les clients sont prêts à acheter plus cher un lave-vaisselle qui dure 30 ans. Moi, je ne sais pas dans 30 ans où je serai, si j'aurai besoin du même type de lave-vaisselle, de la même esthétique de lave-vaisselle.
Oui.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, les produits plus que durables...
C'est l'assurance que le produit va durer dans le temps, quand
oui,
même.
Oui, mais je pense qu'il faut des produits qui soient non seulement durables, mais aussi évolutifs.
Oui.
Et c'est ça, je pense, l'avenir. C'est qu'ils soient réparables, certes, mais aussi durables.
Vous avez raison. On achète un lave-vaisselle...
Mais aussi évolutif.
De raconter ma petite expérience personnelle, mais ça a été le cas il n'y a pas si longtemps. Quand il tombe en panne, 2 mois après
oui,
la fin
sûr.
De la garantie, franchement, on a l'impression
entre
de
se faire
avoir.
Entre 2 mois et 30 ans,
oui,
c'est différent.
C'est vrai.
Mais...
Philippe Moiti, sur le rapport qualité-vie, Qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui quand on achète un produit ? Est-ce que c'est de prendre un produit qui est peut-être plus cher, comme l'évoquait tout à l'heure Samuel Sauvage ? On investit dans la durée pour un produit qu'on sait de bonne qualité et qui va durer. Et d'ailleurs, peut-être de ce point de vue-là, l'indice de réparabilité va nous permettre d'acheter mieux. Ou est-ce que quand on n'a pas forcément les moyens, on achète low cost en se disant peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, il va falloir changer ?
Non, dans nos enquêtes, nous voyons clairement que les consommateurs aspirent à la qualité, et dans tous les sens du terme, dont la durabilité. Il y a à la fois des préoccupations environnementales et puis un intérêt bien compris du consommateur et de son pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'on est mal informé sur la durabilité des produits. Le prix, on le voit tout de suite. Si vous voulez, un écart de prix de 30% entre deux produits, ça saute aux yeux et on voit qu'en achetant le moins cher, on a fait 30% d'économie. La durabilité, la qualité, on la constatera après. Et au moment où on achète, on a quand même très peu d'indices qui nous renseignent là-dessus. C'est pour ça que cet indice est intéressant. Il est insuffisant. Il est totalement insuffisant. Et je pense qu'effectivement, dans beaucoup de cas, il est moins coûteux de payer plus cher.
Il est moins coûteux de payer plus cher. Alors, sur l'instant, ça coûte plus cher, mais voilà. Dans la durée, on est gagnant pour
le porte-monnaie. C'est pour ça qu'il faudrait aller plus loin dans cette démarche. Et peut-être, j'avais proposé, moi, deux mesures très simples. Faire passer la durée de la garantie légale à 10 ans. À 10 ans, là, je peux vous dire, ça change la conception des produits.
Ah oui,
si le producteur est responsable en 10 ans de la bonne marge de son produit, ça va tout changer. Et une autre idée que j'avais mis en débat, c'était d'afficher dans les magasins un coût d'usage à l'année par rapport à la durée de vie du produit. Voilà, comme ça, peut-être que c'est plus cher, mais je me rends compte que chaque année, ça me coûte moins cher.
C'est vrai que c'est comme ça que les constructeurs asiatiques ont réussi pour l'automobile à se positionner sur les marchés européens. C'est qu'ils proposent des garanties que personne ne propose. 6-7 ans pour un véhicule, là où quand on achète une marque européenne, c'est plutôt 2-3 ans.
Et on ne comprend pas
maximum.
Comment on peut dire on fait des produits de qualité et ne les garantir que 2 ans.
C'est vrai. Alors, on parlera dans un instant des vocations aussi que ça suscite, parce que ça crée tout un écosystème, notamment les réparateurs. On assiste à un vrai boom des réparateurs. Je lisais encore un papier dans le journal Les Échos ce matin. Je voudrais d'abord vous faire partager une archive. Vous savez qu'on aime bien ça dans le débat du Club des Idées. Ça date de janvier 73. C'est une émission sur la publicité où, pour la première fois, on parle d'obsolescence programmée avec le directeur de l'Institut National de la Consommation de l'époque. Écoutez.
Les produits qui sont sur le marché, dont l'obsolescence est souvent calculée par l'accélération des mutations.
Qu'est-ce que c'est l'obsolescence ?
C'est la désuétude créée scientifiquement pour faire croire au consommateur qu'on va lui donner un produit de meilleure qualité alors que la qualité n'a pas changé, moyennant une augmentation de prix terrible, ce qui fait que par l'accélération de la demande, on réduit l'élasticité des prix et que la publicité devient un facteur d'inflation à ce moment-là.
Voilà, c'était dans le 18-20, ici même, pas dans le même studio, mais dans le studio d'Europe 1, il y a 47 ans. C'est intéressant de noter Samuel Sauvage, président de Halte à l'obsolescence programmée, que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis.
Non, ça reste dénoncé. Alors, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Maintenant, on demande dans la rue. Finalement, la plupart des gens connaissent et ont fait l'expérience de cette obsolescence programmée. Il y a un sentiment de révolte, d'arnaque du consommateur. On s'aperçoit que les leçons sont faites sur l'écologie, mais qu'en réalité, là, on a un débat, un combat qui rassemble l'écologie, l'économie, le social, qu'on aurait un gain de qualité de vie, avec des gains de pouvoir d'achat et des gains environnementaux très forts. Et les gens ne comprennent pas qu'on n'avance pas vers des garanties plus longues, comme le disait M. Moatti, qu'on n'avance pas vers des indices beaucoup plus clairs vers le consommateur,
c'est vrai, des incitations fiscales, etc. C'est vrai, mais en même temps, Samuel Sauvage, il y a quand même un paradoxe là-dedans. C'est que selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 88% des Français changent leur téléphone portable alors qu'il fonctionne encore. Donc, on veut des outils qui durent plus longtemps, mais on est sujet aussi aux effets de mode, notamment pour les mobiles.
Mais là aussi, là, on renvoie à la publicité qui est mentionnée ici. C'est-à-dire qu'avec la 5G, par exemple, on a maintenant une injonction contradictoire. On nous dit faisons durer les produits, réparons les produits, mais d'un autre côté, on déploie la 5G partout, qui va rendre obsolètes tous nos téléphones, etc. Donc, on a ici beaucoup de consommateurs qui vont dire « Bon, je vais vouloir avoir un nouvel appareil pour avoir la 5G, etc. » alors que ça n'apporte pas grand-chose aux consommateurs lambda. Et donc, toutes ces stratégies vont véhiculer de faux besoins pour renouveler les appareils et on en arrive à une gabegie matérielle dont seront malheureusement victimes les générations futures.
On arrive à le quantifier, ça justement, je ne sais pas qui veut répondre, Emmanuel Lenaguer, cette gabegie de la surconsommation de ces produits électroniques, électroménagers.
Alors quantifier, c'est très difficile. C'est vrai que le fait qu'une grande majorité de personnes... Alors, changent leur smartphone avant alors qu'il fonctionne encore, on pourrait qualifier ça de surconsommation. Mais c'est vrai que les raisons de l'obsolescence ne sont pas uniquement fonctionnelles. On l'a déjà dit, c'est-à-dire que vouloir un téléphone qui a une meilleure performance, une esthétique plus moderne, est-ce que c'est de la surconsommation ?
Oui. Il y a un petit côté frime d'être dans le coup
bien
aussi.
Bien sûr, mais est-ce que pour autant on peut le qualifier de surconsommation ? C'est peut-être un petit peu délicat. Alors, oui, ce qu'il y a aussi, c'est que ça dépend énormément des catégories de produits. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est important, finalement, c'est le rythme.
On ne pas un lave-vaisselle pour être dans le coup.
Absolument.
Hein, je confirme.
Le rythme d'innovation technologique décide aussi, en fait, détermine le rythme d'obsolescence.
Philippe Moiti.
Oui, je voudrais montrer en quoi ça dépend du modèle économique du vendeur. Si on a envie de changer son portable si régulièrement, c'est parce qu'effectivement, on est matraqué d'impulsions nous incitant à considérer que celui qu'on a en poche n'est pas suffisant et qu'on veut le nouveau. Est-ce qu'on a le même comportement à l'égard de nos boîtiers d'accès à Internet à la maison ? Les fameuses box ? Pas du tout. Les box, on les garde 4, 5, 6, 7 ans. Pourquoi ? Quelle est la différence entre la box et le téléphone ? Les deux sont des produits high-tech,
oui.
Mais la box, on ne l'achète pas.
Oui.
La box, elle est propriété du prestataire qui nous la met à disposition pour pouvoir nous vendre un service de divertissement numérique. Et donc, ce n'est pas du tout son intérêt de nous inciter à vouloir un remplacement tous les ans. Ça serait ruineux pour lui.
Mais le téléphone portable, c'est un marqueur social d'une certaine manière,
vous
le savez.
Parce qu'on nous a fait, on nous l'a vendu comme tel. Oui. On pourrait considérer que les box, pareil, comme ça siège au milieu du salon, ça serait un élément ostentatoire pour impressionner les voisins. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous voyez que si le téléphone changeait de modèle économique, c'est au lieu de nous les vendre, on nous les louait, peut-être qu'effectivement, on serait dans une autre perspective.
Ah, pas mal. Louer plutôt qu'acheter.
Exactement.
Ouais. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que ça suscite de nombreuses vocations, cette nouvelle loi et cet indice de réparabilité avec le boom des réparateurs. On va en parler, il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais d'abord vous faire partager un réparateur. Voilà, c'était il y a quelques années, ici à Europe 1, interviewé par Noémie Schulz. En 2013, réparateur de téléphone, voici ce qu'il nous disait à l'époque.
La batterie, elle se trouve collée sur la coque arrière qu'on ne peut pas accéder. Maintenant, avec Internet, les gens, ils regardent sur YouTube les vidéos, comment démonter son appareil. Ils achètent la pièce eux-mêmes sur Internet. Ils essayent de le faire. Malgré ça, ils arrivent ici avec les téléphones démontés, à moitié cassés. Donc non, c'est de plus en plus compliqué.
Bon, Samuel Sauvage, là, on est exactement dans ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec cet indice de réparabilité, normalement, ce qu'on vient d'entendre, ça n'existera plus. On pourra... si la vignette est verte et si l'indicateur est à 10 sur 10, on saura qu'on peut réparer l'appareil en question.
Oui, donc ça, c'est une belle avancée d'avoir cette indication. Mais je voudrais revenir sur d'autres avancées qu'on a permis de mettre dans la loi par notre activité de plaidoyer en tant qu'association. Et c'est pour ça qu'il faut être nombreux aussi à faire porter cette voix. C'est qu'il va aussi y avoir un fonds pour la réparation qui va se mettre en place à partir de l'an prochain, qui va aussi aider à ce que vos réparations soient moins chères. Parce qu'un des obstacles, c'est effectivement...
Donc on va subventionner les réparations, c'est ça ?
C'est qu'on va subventionner à hauteur de 20% normalement.
Comme un peu pour les vélos en ce moment, pour remettre à neuf son vélo.
Exactement. Et donc ce type d'aide aussi va être très importante parce qu'il n'y a pas que le problème de la facilité, il y a aussi le problème du prix, comme vous le mentionniez. Donc ça, c'est très important. Et puis ce qu'on a obtenu, c'est que d'ici 2024, on puisse avoir un indice de durabilité parce qu'un produit qui est réparable, c'est bien, mais un produit qui dure, c'est mieux. Et donc, l'objectif, ce serait qu'en 2024, on n'ait pas seulement l'information sur la réparabilité, mais est-ce que le produit va être robuste et fiable ?
Et ça, il y a des chances que ça arrive...
Alors évidemment, 2024, c'est après les élections, etc. Mais c'est quand même inscrit dans la loi qu'en 2024, ce sera mis en place. Et donc, nous, on se bat pour que ce soit le cas. Il faut qu'on fasse entendre cette voix.
Alors, Emmanuel Le Naguer, je disais que c'est vrai qu'il y a un boom en ce moment des réparateurs. D'ailleurs, ça crée tout un écosystème. C'est plutôt pas mal comme initiative. Des réparateurs de vélos, des réparateurs d'électroménagers. Il y a aussi le reconditionnement des mobiles. On peut acheter des smartphones reconditionnés. Alors, reconditionnés, on le précise, ça veut dire qu'ils sont réparés, qu'ils sont remis à niveau, qu'ils sont contrôlés. Ils arrivent dans la petite boîte, là. Enfin, c'est comme si c'était neuf, quasiment. Et il y a même une garantie qui peut durer plusieurs mois. C'est un marché qui a vocation à se développer, ça ?
Oui, alors tous ces marchés de seconde vie des objets ont vocation à se développer. On le voit sur le reconditionné, sur l'occasion. Il y a un vrai engouement pour tout ça, pour deux raisons. Il y en a une qui est, il y a une motivation qui est écologique et il y a une motivation qui est économique, évidemment. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que justement, le produit durable, tous ces marchés de l'économie circulaire, ça, oui. ça correspond, ça répond à ces deux motivations, à la fois économique et écologique.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, c'était marginal. Ces Ripper Café qu'on connaît et qu'on voit maintenant à peu près dans toute la France. Je crois qu'il y en a 150 ou un peu plus partout en France. La nouveauté, c'est que les grandes enseignes s'y mettent parce qu'elles ont bien compris le filon. Une enseigne, par exemple, comme Darty, va embaucher 500 réparateurs dans les prochains mois pour faire face à la demande de réparation des produits. C'est assez amusant de voir qu'une enseigne qui vend des produits accusés, parfois d'obsolescence programmée, va demain embaucher des réparateurs pour réparer ces mêmes produits. C'est un changement de mentalité énorme.
Oui, mais finalement, une enseigne comme Darty, elle a naturellement vocation à faire ça. Ce qu'elle cherche à faire, c'est à pas simplement à vendre des produits, c'est à créer de la valeur
et à fidéliser,
et donc à créer de la valeur pour les clients. Donc, c'est tout à fait logique.
Philippe Moiti.
Le mieux, c'est de ne pas avoir à réparer, parce qu'effectivement, le produit est durable.
D'où l'indice de durabilité.
Et ça nous amène à l'éco-conception. Plus on poussera les entreprises à se positionner sur le terrain de la qualité, et plus elles exploreront en plus des modèles économiques de rupture, plus elles seront incitées à penser. Je vous donne un exemple tout bête. Hein.
Oui.
Ikea, qui n'est quand même pas connu pour faire des produits extrêmement durables, veut se lancer sur l'occasion et la location. Mais je peux vous dire que si on veut que les produits Ikea passent de main en main, il va falloir les concevoir différemment. Donc, aborder
la... Il ne faut pas les monter soi-même, alors.
Si on peut les monter soi-même.
Non, je blague, parce que quand on les monte soi-même, une fois sur deux, ça...
Vous êtes comme moi.
Oui, oui.
Donc voilà, plus on avancera dans cette direction, plus on sera incité à concevoir les produits sur le mode de la durabilité. Et là, on aura fait un grand pas en avant. Et c'est beaucoup mieux que la réparabilité.
Bien, donc la prochaine étape, pour conclure, c'est l'indice de durabilité, c'est ça? Donc pour 2024, hein, on signe et vous revenez en studio nous le présenter.
Et j'espère qu'entre-temps, on aura d'autres avancées, qu'on aura des extensions de garantie. Je rappelle que la Convention citoyenne avait demandé à ce qu'on ait des allongements de garantie pour les téléphones portables, par exemple, à 5 ans. Eh bien, bon, voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait d'autres avancées de ce type, des avancées fiscales, une TVA plus faible sur la réparation. Nous, on a beaucoup de propositions. Je vous invite à regarder notre livre blanc.
Vous aurez l'occasion
et j'espère qu'on aura d'autres avancées parce que c'est un enjeu crucial.
Merci à tous les trois. Merci d'avoir échangé sur cette question de l'obsolescence programmée et de cet indice de réparabilité. C'est important, rentrer en vigueur. Vous allez le voir partout dans vos magasins. Vous verrez à partir du 1er janvier dernier. Merci.
Europe 1. Écoutez le monde changer.